la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Je suis un poète. Comme tous les poètes, je me nourris de mots. Les mots, je les trouve dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires, il y a beaucoup de mots. Peut-être trop. Il y en a qui sont longs, longs, trop longs, comme anticonstitutionnellement. Et d'autres qui sont trop difficiles, comme zizgi. Alors je ne prends plus mes mots que dans le plus petit Larousse. Il est tout petit. Il a bien assez de mots. Et il tient bien dans ma poche. On trouve aussi beaucoup de mots dans les poèmes des autres poètes. Je les lis et je leur prends des mots quand ils me plaisent. Pélican, par exemple, dans un poème de Robert Desnos. Salut à tout le monde, salut Claire.
Bonsoir à tous.
Salut Valérie.
Hello.
Marlène est là aussi, salut Marlène.
Salut.
Claire Lise, salut Claire.
Coucou.
Salut Popo.
Salut tout le monde.
Salut Nico.
Salut tout le monde.
Alors vous l'avez peut-être compris avec cette introduction, nous allons parler aujourd'hui de poésie, la poésie avec Jacques Roubaud pour entamer cette émission. Popo, Jacques Roubaud qui est un poète français.
Oui, je crois membre de l'Oulipo, un groupe d'expérimentation poétique qui travaille sur la contrainte. On connaît la Disparus, le livre sans le E de Son nom m'échappe. Qui a écrit un roman entier sans E.
Georges Perec.
Perec, voilà. C'est ce style de travaux, Apollinaire, je suppose.
Voilà, c'était juste une introduction qui est tirée du livre « Qu'est-ce qui mijote dans ma marmite à mots ?» Alors, on ne va pas en parler dans cette émission, mais voilà, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. De la poésie pour cette émission, et on va commencer avec beaucoup, on a beaucoup de livres à présenter, c'est des livres, bien sûr, qui se lisent un peu plus rapidement que les poèmes que l'on a l'habitude de vous présenter ici dans cette émission. Marlène, on va te laisser la parole pour un premier livre.
Très bien, j'attaque alors. Alors, un poème que j'aime beaucoup et qui a été revisité en 2018, Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Donc on part dans les classiques de nouveau. Voilà.
Mais donc c'est pas le Dormeur du Val.
C'est pas ça.
Valérie alors, s'est lancée dans une...
Du coup, c'est aux éditions Juvenilia. Et en fait, ça a été illustré par Lauren Kendrick. Alors, toutes les illustrations, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant aujourd'hui. C'est toutes les illustrations, c'est fait à base de collage en fait, et très très coloré. Donc, il est plutôt sympa. Et puis après, sur chaque page, il y a un vers du poème pour illustrer. Et on ne se doute absolument pas, bien entendu, que c'est le dormeur, le pauvre soldat. Qui était tendu dans les champs. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-ci ? Eh ben c'est très court hein, forcément puisque le Dormeur du Val, enfin je sais pas si je vais me lancer dans la lecture mais il y a que 4 strophes hein, donc c'est très court. Donc forcément le poème il tient en 36 pages. Donc ça va.
Évidemment.
Voilà. Après voilà, j'ai surtout et puis c'était pour refaire un petit clin d'œil à un classique de la poésie quoi.
Et le
donc, voilà.
Ouais.
Je le lis.
Les illustrations, enfin je trouve qu'elles montrent tout en douceur, enfin comme le poème qui retient un petit peu cette idée de la mort.
C'est bah, ça.
C'est toujours tu et dans les illustrations on retrouve un peu cette idée.
C'est tout doux, quoi.
Et la dernière page, celle qui va avec le dernier vers, elle éclaircit la situation ou Elle la rend...
En fait, elle intègre, c'est très beau parce que elle intègre le...
Les deux trous.
Le dormeur dans un paysage. Donc, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un dormeur, en fait. On a l'impression que ce qui s'écoule, ça va directement à la rivière et que c'est intégré dans la rivière.
On dirait presque, des racines. Voilà.
C'est difficile à décrire à la radio, mais ça s'intègre parfaitement dans un paysage tout collé, quoi.
Parce que c'est un livre pour enfants, c'est pas évident de lire ce poème à un enfant et de lui expliquer qu'est-ce qui se passe à la fin.
Voilà. Surtout que d'habitude, enfin voilà, Dormeur du Val, je pense qu'on le voit pas avant le collège.
Donc, au moins, je pense.
Voilà. Mais là, ça peut passer. C'est pas. Enfin, bon, après, si on regarde les détails, on voit des crânes quand même dans des fleurs. Donc, on comprend que c'est un champ de bataille, mais c'est plutôt implicite, quoi. Mais comme tu disais, Claire, hein, on voit pas au début, on voit pas du tout que c'est.
Oui, c'est tout en douceur.
Voilà,
oui.
C'est tout en douceur. Donc voilà, c'était un petit retour au classique que je voulais souligner.
La maison d'édition, qui est-ce qui publie ça ?
Alors, je l'ai dit au tout début.
Ah, excuse-moi, je n'ai pas entendu.
Juvenilia. Voilà, édition MOOC. Voilà.
C'est habituel, ces rééditions de poèmes, oui, j'imagine.
Oui, on en a beaucoup. Mais après, des mises en illustration comme ça, autour de collages, pour que ça corresponde plus à la jeunesse, pas trop. Mais ces éditions, je crois qu'édition MOOC, ils en font beaucoup, justement, pour revenir aux classiques et les remettre au goût du jour, en fait. Voilà.
Okay.
Ce que je peux dire pour le premier.
Mais c'est parfait. Merci beaucoup, Marlène. On va passer à Claire. Hop, comme ça, pendant ce temps, tu
transition.
Récupères un peu le micro, Valérie, pour présenter le livre d'après, avant Nico.
Ok. Alors je vais présenter pour le coup une forme longue puisque tu as parlé de ces poésies qui se lisent rapidement. Alors ça s'appelle Nous l'Europe, banquet des peuples de Laurent Godet. Je dois dire que quand je l'ai eu en main, c'est ma collègue, je la salue, c'est Annie qui me l'a donné. J'étais un peu surprise parce que ça parle de la construction de l'Europe sous forme poétique. Voilà.
Donc c'est un génial.
C'est très beau projet, mais quand même assez innovant,
c'était
je pense.
C'était pas gagné, quand même. Hein.
Voilà.
Donc ça aurait donné envie.
Et ça commence par Brexit.
Est-ce que ça parle du Brexit Il a peut-être été écrit avant.
Non, mais c'est sous-entendu.
Non, c'est pas ça.
On n'est pas sur une émission érotique, Nico, s'il te plaît.
C'est pas des poésies érotiques. Je croyais que c'était
ça. Ben, il peut y en avoir. Hein.
Au XIIIe siècle.
On peut en trouver.
Il y en a.
Oui, bien sûr qu'il y en a, mais il y a de tout. Chez nous, je sais pas, la MDL, faudrait qu'on regarde.
Oui.
Voilà. Alors l'auteur, c'est un Européen convaincu et justement, enfin, tu parlais du Brexit, Nico. Il parle de ce constat. Il se demande et si l'Europe disparaissait. Parce que pour lui, l'idée, elle est devenue possible assez récemment devant la génération, il y a une nouvelle génération voilà qui commence à prôner un peu la dislocation de l'Union européenne et elle est manifestement en marche. Et pour lui, c'est très dommage parce que ça reste la plus belle aventure, il le dit, du 21e siècle. Alors dans cet ouvrage, en fait, il se pose la question du déclin du projet européen. Donc l'ouvrage, il est construit, il a une chronologie historique. Donc il démarre du 19e siècle avec la construction, disons, culturelle de l'Europe, et puis il en parle un peu de la construction politique. C'est de la poésie en vers. Donc en fait, c'est pas du tout pénible à lire. C'est fluide, mais ça nécessite quand même des connaissances. Je dirais qu'une personne toute jeune, qui aurait peu de connaissances sur l'Europe et sur l'histoire européenne aurait peut-être un peu de mal à suivre. Mais je pense qu'en, quand même, en tant qu'adulte, ça se lit plutôt bien. C'est assez incroyable, en fait. Je trouve que, cette forme, cet essai poétique dans sa forme est assez original.
Et est-ce que tu peux le lire un peu au hasard, comme des recueils de poèmes, l'ouvrir à n'importe quelle page ou n'importe quel chapitre ?
N'importe quelle page où il y a un post-it, vas-y.
Non, ça je pense pas. Enfin, je pense que ça nécessite une entrée, une introduction. Alors après, je peux vous en lire un bout.
Non, vas-y, choisis ce que tu veux.
Ok, alors, grand banquet. C'est cela qu'il nous faut maintenant, de l'ardeur, de la chair et du verbe grand banquet. Venez, soyez nombreux. Apportez ce qu'il faut pour faire bon banc ces débats. Pardon, j'ai la voix enrouée. Elle est là notre mission, faire revenir les peuples au cœur de l'Europe, inviter l'utopie et la colère. Car jamais rien ne s'est fait sans eux. L'Europe s'est trop longtemps tenue éloignée du corps bruyant des peuples. Elle avait peur de leur mauvaise humeur, de leur coup de sang. Elle avait trop vécu l'aliénation collective. Elle a essayé d'inventer une entité qui naîtrait de la raison, mais ce faisant, elle a oublié la sève et découvre le risque de venir un grand corps vide. Allez, venez, grand banquet. Il faut revenir à l'élan des peuples. Cela ne sera pas confortable ni doux. Les peuples avancent par à-coups et renversent les tables, mais l'Europe mourra si elle se tient éloignée de la passion. Voilà, donc c'est un
bravo.
Peu...
Bravo.
Oui, quand tu nous le présentais, je croyais pas que ça pouvait être poétique, mais
ouais.
Ça l'est.
Ouais. Ouais. Voilà, parce que en fait, lui, son constat, c'est de dire aussi que l'Europe a été politique et technocratique et que, bah, oui, et assez peu culturelle, et qu'en fait, eh ben, ce grand banquet, il dessert l'élite, voilà, c'est assez, comment on dit, technocratique, etc. Et c'est ce qu'il aimerait, en fait, c'est qu'on se construise une Europe culturelle et que bah, les peuples... reviennent à la table et que...
C'est ce que disait Helmut Kohl, hein, avec François Mitterrand, quand ils ont commencé la création de l'Europe. Il fallait faire une Europe des peuples.
Et oui.
C'est l'Europe des peuples.
C'est ça.
Qui passait par une Europe de la culture. Et finalement, on a fait exactement l'inverse qu'une Europe du commerce.
C'est, voilà, c'est le cousin exactement. De René Ludo.
De Riné.
Non, non, mais Kohl.
Il y a une inside joke, là. Je sais pas,
René Kohl. Oui. D'accord, je n'ai pas compris. Mais Popo va m'expliquer.
Ah, malheureusement, non.
En tout cas, c'est un pari qui a l'air intéressant d'avoir fait une poésie sur l'Europe et sur ce thème complètement d'actualité. Hein.
Oui, oui. Et oui, c'est très actuel, en fait, quand on le lit. Et il parle aussi de... Comment bah voilà, j'ai perdu. Ah oui, de cette Europe des apatrides, des indésirables. Alors, il commence avec le statut des Juifs allemands pendant la Seconde Guerre. Et il poursuit avec la question migratoire et tout, enfin les drames auxquels nous sommes confrontés, et puis la gestion un peu pathétique de ce phénomène. Voilà. Alors il se demande aussi d'où vient cette fragilité de ce sentiment d'appartenance. Pourquoi est-ce que finalement l'Europe, enfin comment dire? C'est une réalité, mais c'est assez, enfin, c'est peu vécu, c'est peu
voilà, approprié. Pourquoi... Peut-être que les gens ne se sont pas appropriés l'Europe.
C'est que les gens ne se sont pas appropriés l'Europe, mais parce que l'institution, par exemple, il n'y a pas de maison de l'Europe dans chaque département. Donc comment on fait pour intégrer l'Europe quand on voit tous les dossiers qu'il y a sur les tous les dossiers de demande de subvention qui sont ultra complexes. Comment s'approprier? Fait déjà, c'est une simplification, quoi. C'est vivre l'Europe, c'est tous les jours. Hein.
C'est comment c'est on, fois, comment an, on devient européen. Ans.
Mais moi, ma question, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement ou qui est très engagé?
Pardon, j'avoue que j'ai préparé mon émission.
C'est curieux mais, comme démarche.
Alors,
on se
c'est Laurent Godet, donc bon, c'est quand même
c'est un
grand
romancier.
Auteur. Oui. Enfin, alors moi, je l'ai pas lu dans des questions politiques, mais ça. Enfin, voilà, là, je connais. J'ai pas assez. Préparé.
Parce que moi, ouais, je suis étonnée par la démarche. Pardon pour la question piège.
Non,
alors,
mais bon.
Nous allons créer un hashtag. J'ai travaillé pour Claire. Donc, si vous voulez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux et nous expliquer, nous parler un peu de cet auteur, hashtag J'ai travaillé pour Claire. N'hésitez pas à les. Maison d'édition.
Alors que j'ai une double page de notes, quoi. Ouais.
Actes Sud, c'est ça?
Oui, c'est ça, en 2019.
On va la retrouver, hein, voilà. Actes Sud. Valérie, un petit mot sur un ouvrage avant de passer à Nico, puis à Clarisse.
Ben oui, puisqu'on était sur des livres qui en parlent de la guerre, puis de l'Europe. Eh bien, moi, je descends et je pars au Maroc. Au Maroc pour aller rejoindre Tahar Ben Jelloun, qui est un poète marocain.
Tahar Ben Jelloun.
Bien connu. J'ai un très mauvais accent
super
marocain.
Super connu, il a été même ministre lui.
Oui, hein, tu sais, ben écoute, si tu veux, je peux faire sa biographie.
Il me semble.
Sous Sarko.
Valérie à travers.
Non, sous Chirac.
Ah, ça, je sais pas.
Il était ministre, non, non, si, ou secrétaire d'État. Si, si.
On va arrêter.
On va pas créer un hashtag.
Hashtag Valérie, travaille ton.
Hashtag nouveau ministre. Non, 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 il a été grand philosophe, il a écrit beaucoup de livres, il a été. Dû aller étudier en France la philosophie, puisque au bout d'un moment, au Maroc, ça pouvait plus convenir. C'est quelqu'un qui a eu quand même un Goncourt en France avec son roman qui s'appelle L'Enfant des Sables. Enfin bref, c'est vraiment un grand, grand auteur qui avait été très, très prolifique en termes de romans et qui, actuellement, bon, vit à Tanger avec femme et enfant et qui intervient aussi beaucoup en France dans les universités, les collèges, mais aussi au Maroc, enfin bref, et en Europe pour faire le lien avec ton livre, Claire. Voilà. Et donc, ce recueil qu'on vient de me voler, qui était devant moi, qui me servait de note, c'est pas grave. C'est un recueil qui a été publié en 2019 chez Gallimard, et qui va commencer par un très très long poème. Alors, ça, de suite, ça crée une ambiance assez froide, assez austère, puisque ce premier grand poème, il va retracer l'événement terrible qui est le massacre d'Imlil, où deux jeunes femmes, deux touristes ont été égorgées par des terroristes dans le Haut Atlas en décembre 2018.
Oui, c'est pas vieux.
Oui, c'est assez récent. Et ce poème, il est prégnant de vie. Enfin, il est terrible et il est fort en justesse. Et il raconte ce massacre en disant: ils tuent et sont fiers de n'être plus des hommes ou des animaux. Leur soif du mal est une fièvre qui les rassure. Ils n'ont jamais été enfants, sont nés vieux, vomis par la haine. Et en fait, face à ce crime ignoble et par la douleur que ce crime a engendré, Tahar Ben Jelloun donne l'impression de vomir sa colère, de vomir une rage. Et en fait, comme si, en fait, si le lecteur contemporain lisait ça, ça allait apaiser tout ça. Comme si grâce à ces mots, il allait pouvoir retrouver quelque chose de beau, de lumineux. Le titre du livre, c'est « Douleur et lumière du monde ». Et notamment, après, il continue en disant: toi qui es né à l'aube, dis-moi la beauté du monde. Je sais la douleur et l'absence, alors dis-moi ce qui fait le chemin, ce qui rend l'homme meilleur, ce qui se dresse devant toi, que tu sois enfance ou vieillesse, tu as le sens caché de la lumière. Et ensuite, dans la dernière partie de son recueil, il parle aussi des statues, et c'est un autre événement terroriste, un autre acte terroriste qui avait eu lieu là près d'Alger, donc en 2017. Et au milieu de ces deux textes, en fait, qui sont très durs, qui parlent du terrorisme, où on sent que ça le blesse dans le plus profond de son être, dans le plus profond de ce qu'il est. Malgré tout, ben tous les mots qu'il va choisir, ils sont lumineux, ils sont beaux. Et malgré tout, tous ces autres poèmes, ils vont être beaux. Ils vont nous faire. Ils parlent d'amour. Ils parlent de famille, de fraternité, d'entraide, et c'est et moi ça m'a beaucoup déroutée d'arriver à passer de poèmes durs et de poèmes très beaux, notamment un que je vais vous lire qui est assez court. C'est: il faut nommer les choses, les objets et les sentiments, même si le doute rôde autour du langage, il faut choisir les mots, dire je t'aime à l'aimer, prendre la main quand le départ est imminent, avec les deux bras tendus repousser la solitude, la jeter loin dans la mer. Nommer, c'est être présent. Savoir que le temps ne distribue pas de cadeaux, être là, solidaire et fraternel, sans regarder la montre ni espérer la clémence du ciel. Et c'est des contrastes. Voilà, il est fabuleux. Entre des mots très durs où c'est qu'on sent qu'il a besoin de se livrer, et des mots très très poétiques, très très amoureux. C'est vraiment un recueil qui m'a énormément énormément touché.
Oui, très beau. Et c'est très beau de se servir d'un événement aussi tragique et dramatique et de l'exprimer en poésie. C'est à ça aussi que sert la poésie.
Ben, c'est là où vraiment je trouve qu'il accomplit quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui. Nico, tu voulais intervenir?
Il a cherché sur Wikipédia voir s'il avait été ministre et il se rend compte que non.
Tu as raison, il n'était pas ministre.
J'ai toujours raison.
Par contre, ce qui me faisait dire ça, c'est qu'en fait, il a fait une intervention qui était remarquée politiquement, puisqu'il est intervenu après le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy sur le fait de déchoir de la nationalité quelqu'un qui aurait commis un crime. Il est intervenu violemment là-dessus. Oui. Il a écrit un pamphlet contre, enfin pas un pamphlet, mais il a écrit à Nicolas Sarkozy pour lui rappeler sa place de président et qu'il pouvait pas utiliser la Constitution comme il le voulait. Oui, voilà, c'était par rapport à ça, parce que politiquement, c'est quelqu'un qui était très engagé, et dans la défense aussi contre toutes les formes de discrimination.
Bah, il a fait aussi des pamphlets, justement, des pamphlets sur l'islam, accompagné de gens comme Yasmina Reza, où vraiment il est très engagé, et on sent que pour lui, c'est un meurtrissement, en fait, ce détournement qui a été fait de la religion qui est l'islam, qui est une belle religion, et ce qui en est fait par un groupuscule de personnes, et on sent que ça le blesse au plus profond de son être, et ça fait ressortir justement son côté philosophe et poète.
T'imagines, on vient de le nommer ministre de Sarkozy ou de Chirac à opposant, là. Boum, en 5 minutes. Merci,
c'est
Nico.
Vrai, mais c'est ça, faire de la politique aujourd'hui.
C'est ça. C'est
on
ça, faire de la poésie.
Tourne sa veste.
Aujourd'hui.
Les gommes.
Mais peut-être qu'on peut passer sur quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus distrayant, Ludo.
Allez, c'est parti. Claire Lise, dis-nous, avant de présenter le jeu mensuel de cette émission, un petit livre. On t'a fait travailler un peu.
Oui, bah, j'étais volontaire aussi. Hein. Du coup, c'est un tout petit livre qui parle du temps, un temps pour tous. Il se lit vraiment très très facilement. Il est écrit par Lucille Lux et il est illustré aussi par elle, hein, je crois. Voilà. C'est vraiment autant le texte. Pardon, Un temps pour tout. Voilà, le titre donc. C'est autant le graphisme est délicat, voire des fois très épuré. Le texte aussi, et je trouve que arriver à mettre de la poésie comme ça, tout en délicatesse, avec très très peu de mots et que ça touche autant, ben je l'ai trouvé très très beau. Il se lit, voilà, c'est juste pour prendre 5 minutes comme ça, de tranquillité et de réflexion sur le temps qui passe. Ça parle de la seconde jusqu'à toute une vie en quelques pages. Je vous invite à le regarder. Franchement, il est très très beau.
Voilà, un très petit format, c'est, je ne sais pas quel est le nom de ce format, à l'italienne. Okay. À l'italienne.
C'est qu'en noir et blanc.
Et qui est en noir et blanc.
Non, il y a de la couleur. Ah ouais, bah, ouais, c'est. Ouais.
La maison d'édition, tu sais.
C'est
vas-y.
Soc et Foc.
Soc et Foc, tiens.
Ça a été imprimé en
Soc et Foc sont dans un bateau.
Limité, enfin, c'est en limité.
Soc tombe à l'eau. Qui l'a poussé? Tu n'es pas obligé de répondre, Claire.
Je ne répondrai pas.
Merci, Claire-Lise.
C'est au carnet de voyage, en fait. Oui. Quand on voit les illustrations, ça fait penser vraiment carnet de voyage.
Voilà.
C'est vrai.
Il y a de plusieurs techniques. Il y a des collages, il y a de l'aquarelle, il y a de la peinture.
Mais le temps qui passe, ce n'est qu'un voyage.
Ouais. Et le texte se balade beau, aussi un peu sur la page.
Alors... Pour ce jeu, on a deux testeurs, et ouais, maintenant on fait venir
deux
testeurs
qui vont nous. Bonjour!
Alors, c'est une testeuse et un testeur.
Ouais.
Bonjour.
Alors, Claire-Lise, un petit jeu sur le thème de la poésie, c'est pas facile ça. Qu'est-ce que tu nous as dégoûté aujourd'hui?
Du coup, je vous ai pris un petit jeu qui s'appelle Dixit, qui a été édité il y a une dizaine d'années. Hop.
Il y en a plusieurs, non, des Dixit?
Oui, en fait, il y a beaucoup d'extensions. Et moi, quand on m'a parlé de poésie, tout de suite, c'est le jeu qui m'est venu à l'esprit parce que je trouve que les illustrations amènent justement à l'imaginaire, à la poésie, tout simplement. C'est juste magnifique. Les cartes sont sublimes, si vous voulez en regarder quelques-unes.
Alors, en parlant de Dixit et de poésie, pour Popo, est-ce que tu peux me faire, Popo, vite fait, une rime avec Dixit ?
Non, Brexit.
Elle ne l'a pas. Ah bien, voilà ce qu'on attendait.
Ça c'est parce que Claire a parlé de l'Europe, hein, sinon...
Du coup, voilà, c'est un petit jeu qui peut se jouer jusqu'à 5 personnes. Donc il est édité par Libellude, distribué en France par Asmodée. L'auteur c'est Jean-Louis Roubira et l'illustratrice du premier, en fait, c'est Marie Cardois. Mais en fait, il y a eu plusieurs illustrateurs au fur et à mesure des extensions. Donc, c'est un petit jeu qui invite à l'imaginaire, à essayer de vraiment d'interpeller chaque joueur sur qu'est-ce qu'évoquent ces belles cartes illustrées. Et franchement, si vous ne connaissez pas ce jeu qui a été comment on dit ça, qui a été primé, merci, voilà, hein, qui a eu le Spiels d'or. Du coup, je vous invite vraiment à vous y pencher parce que c'est juste magique. C'est un moment de détente, d'imaginaire, où tout le monde peut se retrouver là-dessus, ou pas d'ailleurs. Des fois, on a des beaux moments de rire. Et voilà, ça invite à...
Oui, c'est vraiment très beau. Oui.
Tu l'as dit ?
Ça fait rêver.
Alors, non, je ne l'ai pas dit, pardon.
Et les cartes sont très, ça fait très, on pourrait rien que regarder les cartes et se faire plaisir sans jouer.
C'est ce que j'allais dire, on pourrait juste les afficher, c'est ça. Rien que ça. Hein.
Alors comment on joue ? Parce que moi j'aimerais savoir comment on joue.
À partir de 8 ans.
Ouais. Alors mes petits testeurs, c'est pas pour vous.
Sur la boîte c'est marqué à partir de 8 ans. Alors après je pense
que ça doit dépendre des enfants.
Il faut décrire les cartes, hein, comment
on fait Claire-Lise ? Comment on joue ?
Comment on joue ?
Parce que c'est ça qui nous intéresse.
Comment on joue ?
Parce que moi je suis là pour gagner.
Chaque personne a 5 cartes.
Oui.
Donc il y en a qui en ont beaucoup plus et d'autres beaucoup moins.
J'en ai 74.
5, Popo, arrête, commence pas à tricher.
Et puis il y a une personne qui va être le compteur. Donc en fait, on est compteur chacun à son tour. On choisit une des cartes de son lot. Et puis parce qu'elle nous évoque quelque chose. Et du coup, on donne une phrase ou un mot ou voilà. Par exemple,
je peux commencer.
Vas-y.
Allez, je commence. support sur sas.
Waouh.
C'est
ça,
le
sas. Alors on ne peut pas jouer.
L'émission, c'est poésie.
C'est de l'art. C'est un renard où il y a un renard où il y a un poisson qui sort du tableau. C'est deux œufs, c'est tout ça. Support, le courant support sur ça, s'il vous plaît. Là. Un peu de culture, mince.
Du coup, le compteur qui a posé sa première carte avec sa phrase. Invite les autres joueurs à sélectionner dans son lot de cartes une carte qu'il pense avoir un lien avec ce thème, voilà.
Ce courant artistique.
Exactement. Il l'a choisi, il la met à l'envers devant lui. Puis, quand tout le monde a choisi, on les met ensemble, on regroupe toutes les cartes, on les mélange.
Ah oui, mais je crois que j'y ai déjà joué.
Hop, on les mélange. Comme c'est ça, on ne sait pas qui a mis quoi.
Qui est le c'est plus ça. Près
et ensuite, on les dispose à plat, en ligne. Normalement, après, on les retourne.
On va pousser les 12 verres de
coco. Ça n'a aucun lien.
Normalement, il y a 5 joueurs. Hein, on est bien d'accord sur 5 joueurs.
Plus.
Ça va aller, Valérie?
Ça va. J'aime pas perdre.
Vous n'avez rien compris aux règles. Là, ça n'a aucun rapport.
C'est une ineptie.
Et du coup, les joueurs vont devoir voter quelle est la carte qui porte le nom. Donc, quelle est la carte du compteur, en fait.
Ah, bah, on n'était pas censé l'avoir vue.
Ah oui, mais j'ai dit que c'était un renard. D'accord, ok. Excellent, ce jeu.
C'est celle-là.
Ah, Nico, j'ai gagné.
Et c'est comme ça qu'on a des points, en fait. Les cartes, on met son petit carré numéroté, puisque chaque carte a un numéro. Et du coup, on met son petit carton de numéro devant la carte auquel on pense.
On peut rejouer.
Ouais, on peut rejouer.
Après, en fait, il faudrait faire une vraie partie, parce que là, ça serait vraiment bien, une vraie partie ensemble.
Juste un coup, Nico, vas-y.
Alors, les petits lapins qui sont sur le boîtier, sur la boîte, en fait, c'est ceux qui vont servir à marquer les points. Vous êtes très dissipés. On parle de jeu, mais quand même.
C'est Ludo qui arrête pas, en fait.
Pas trop avec le reste du jeu, vous êtes tous d'accord avec moi. Dû faire des petits lapins beaucoup plus poétiques, féeriques.
Parce que Ludo, comme Ludothèque,
c'est ça
qu'il aime jouer.
Donc chacun a son petit lapin de couleur et il avance sur les cases suivant le nombre de points qu'il a gagné par rapport à sa carte.
Ah, d'accord. Oui. Donc finalement, le support est presque.
Et en fait, la boîte, elle sert dans le jeu. Ouais, parce qu'il y a les chiffres dans la boîte et du coup, voilà.
Après, tu peux juste t'amuser à raconter des histoires.
Exactement. On peut simplement s'amuser à faire des histoires, à travailler sur par exemple, à imaginer qu'est-ce qui peut se passer après la carte, pour une autre carte, etc. Et se laisser entraîner par le jeu.
Donc, à la fin de l'émission, on joue. Hein.
Ouais, super. C'est mais non, parce que Claire-Lise doit partir.
Oh. Désolée, une prochaine fois.
Et ouais.
Non, c'est le mien.
Non, en tout cas, super, hein, ça me donne envie de.
Ah ouais, moi aussi.
Il est vraiment très très beau et je vous invite à y jouer parce que ouais, franchement, c'est des beaux moments.
Franchement, les cartes sont très belles.
Ils ont déjà pris le jeu avant que tu l'expliques, ils ont joué avec leurs règles. Mais...
C'est ça.
Ouais. Et Claire-Lise, t'as parlé de plusieurs générations de Dixit, c'est ça enfin,
oui, il y a plusieurs extensions, je crois qu'il y en a même 7 ou 8, carrément.
Et c'est quoi la différence avec les extensions?
En fait, ce sont des cartes nouvelles, les extensions. C'est juste, on rajoute des cartes qui sont faites par d'autres illustrateurs. Du coup, ça ramène aussi une dynamique dans le jeu. Et c'est juste magnifique, quoi.
Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Avec plaisir. J'espère que je vous ai invité à jouer.
Ouais, mais carrément. Allez, je vais faire la transition avant la pause musicale avec tiens, quel livre je vais prendre. Un livre pareil pour jouer. Un livre pour jouer avec les enfants qui s'intitule. Tout en rime, c'est Bruno Guibert, 20 poèmes à compléter. Donc j'ai joué avec mon enfant de 7 ans qui a adoré. Ce sont des poèmes avec des blancs. Et il y a une série de mots à choisir où on peut placer dans ces blancs pour créer une poésie. Donc Nico, je prends au hasard un poème. Donc tu as le poème et tu as des mots à droite que tu dois mettre à la place des manques du poème. Vas-y, je te laisse lire.
On peut inventer ou pas?
Attends, non, tu as une série de mots.
Tu remplis.
T'as le droit de te libérer.
Quel foutoir dans l'armoire? Non, mais as-tu déjà vu chose pareille? Une drôle de...
suppositoire.
Qui sort du tiroir avec son air de...
Bonsoir.
Une grosse...
Je suis gêné, là.
C'est pour les enfants, Nico. Me dis pas qu'il y a des termes...
Bah, mais il fallait le dire avant, je sais pas, moi.
Il faut que tu prennes les mots qui sont marqués en bas à droite de la page.
Bouilloire.
Une grosse bouilloire sous chaque patte, cherchant son chemin dans le...
miroir.
Et le voilà qui court sans se cacher derrière là.
Victoire.
Ni bonjour, ni au revoir. Quel culot. Passez-moi une...
mâchoire.
Que je l'assomme.
Merci Nico. Voilà, et donc voilà, c'est vraiment amusant. Alors il y a des rimes en war, il y a des rimes en o, il y a des rimes en ar, il y a des rimes en i. Voilà, avec des illustrations sympas. Donc voilà, pour jouer avec les enfants, j'y ai joué avec mon enfant et on s'est vraiment amusé.
OK.
Et tu peux noter tes enfants à la fin et leur mettre des... Non ?
Non, non, on note pas. C'est ludique, ça reste ludique.
Non, c'est pour les enseignants, c'est je donne des idées pédagogiques. Ils en ont plus, quoi. C'est pour ça.
C'est tout pédagogique comme idée.
C'est anti-pédas.
Oui, ah pardon, ouais. Moi je suis plutôt anti-pédas, excuse-moi. C'est un truc farfelu, quoi.
J'ai récupéré dans les propositions des CD. Il y a des CD poèmes de Méditerranée, très jolis. Donc c'est pas du slam, c'est vraiment de la poésie avec de la musique de Méditerranée. Oui. Et on va se faire une pause avec Luis Antonio de Villena qui va nous interpréter Royaume de Taifa ou Taifas, suivant.
Chercherons des coquillages et des galets. Et qu'en sortant de l'eau, nous serons là. Nous mangerons couchés des raisins ou la pulpe carmin de la pastèque. Parmi l'éclat du soleil, je promènerai ma main sur l'eau délicieuse de tes jambes. Quand la nuit viendra, que l'air brûlera dans la chaude odeur du jasmin, nous boirons du vin sur la terrasse. Et tandis que ta première jeunesse reposera sur moi, que tu me souriras tout près de t'endormir, je jouerai à fixer sur ton lobe un grenat qui brille dans la nuit, ou la blanche pâleur d'une perle. Je te le promets, parmi le meilleur et les délices du désir. Les jours dont nous disposons, souviens-toi, sont comptés. Presque nul ne comprend le plaisir. Trop grande est l'insouciance. Les gens de notre espèce doivent vivre vite, comme si tout n'existait qu'un seul jour. Notre royaume est éphémère. Chrétiens ou almoravides finissent assez tôt par frapper à nos portes.
Allez, on est reparti, seconde partie d'émission. Tiens, je vais commencer. Je vais commencer, allez, rapidement, parce que j'adore la sérigraphie. Ouais. Voilà, alors j'ai choisi un livre. Non, il faut que je le lise derrière parce que j'ai pas de notes.
Non, tu lis la quatrième de couverture, en fait.
Non, je m'en inspire. J'ai pas eu 8 heures de bus à ne pas savoir quoi faire dernièrement. Tu vois, donc voilà. Alors en fait, c'est un bestiaire d'un poète, artiste, qui s'appelle Rambarwasja, qui a grandi sur les rives du fleuve Gange, donc c'est un indien, qui est de la tradition du Mithila, c'est un état du Bihar du nord-est de l'Inde. Et donc, dans cet ouvrage, il parle de tous les animaux qu'il connaît, et notamment qui sont dans le Gange, des animaux aquatiques qui le fascinent depuis l'enfance. Donc il les a dessinés sur chaque page en sérigraphie, et sur chaque page, il a fait un poème pour en parler. Donc j'en prendrai un au hasard.
Mais c'est des vrais animaux qu'il y a dans le Gange ?
C'est des vrais animaux. Après, je vous le donne. Donc, les vagues rampantes de la mer apportent de drôles de poissons au dos rond et aux pattes recourbées. Donc voilà, il parle d'un genre de poulpe.
Les dessins sont fabuleux, c'est génial.
C'est magnifique.
C'est très ah ouais.
Voilà,
c'est
je vous le laisse passer. C'est chez Actes Sud Junior. C'est beau, mais dans tous les sens du terme. Ouais. Que ça soit les dessins, que ça soit la poésie, c'est des genres d'IQ, c'est très court.
Le papier est très épais.
Le papier est très épais. Ça ramène à l'enfance. C'est vraiment voilà un enfant qui dessine les animaux qu'il voit. Et qui écrit avec une plume d'adulte en poésie ce qu'il ressent en voyant ces animaux. Donc voilà, vraiment, vraiment à conseiller, c'est un ouvrage magnifique. Voilà, après avoir placé la barre très haute, je vais laisser la parole à Popo.
Allez, go.
Qui n'a rien présenté encore.
Bon, je passe la barre haute avec la maison d'édition dont je parle. Il me semble qu'on en a déjà parlé, je pense, il y a très peu de temps. Une maison d'édition marseillaise, le Port Jauni, qui édite des textes du Soudan, Franco, du Liban. Oui. Ouais, voilà.
On en a parlé.
Et là, moi, j'ai lu un recueil de Roubaïa. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une forme de poème persan. C'est des quatrains, des poèmes à quatre vers. Écrit par Salah Jaïn et illustré par Walid Taher.
Il n'était pas ministre sous Hollande. Attends, Nico va nous dire.
Mais tout à fait, mais comment tu.
Ah, je sais pas. Il a fait un discours au Sénat. C'est ça, Claire.
Par contre, tout à fait, il a fait un discours au Sénat en 1979 sur la contraception des moules dans la mer des Sargasses.
Ah, c'est vrai.
Ça va être fort intéressant d'ailleurs. Oui.
Moi je vais un peu en marche arrière sur la poésie traduite parce que je me dis que je lis plus le travail du traducteur que celui de l'auteur. Alors, je ne lis pas l'arabe, mais ce qui est rassurant dans cette collection, c'est que les textes sont édités dans les deux langues. Donc je me dis voilà, donc on a la version arabe et la version traduite. Et je me dis que ça met un petit peu en confiance. On se dit bah là le traducteur, il peut pas faire n'importe quoi parce que il sait qu'il va être lu par il peut pas prendre des libertés ce que peut faire un traducteur sur n'importe quel roman, voilà. On lit quand même il tombe.
Oui, il tombe.
T'as le micro qui tombe, c'est bizarre.
C'est bizarre. Attends, on va bien le relever.
Tu fais un drôle de ce micro là.
Attends,
je le resserre un peu. Vous êtes dissipé ce soir.
Croisi.
Quand j'ai vu ça déjà, je me suis dit ah tiens voilà, je vais lire une traduction qui normalement devrait être assez fidèle au texte original.
Puis c'est le parti pris de la maison d'édition.
Ben voilà, en plus c'est de traduire des textes presque inconnus. Pour tout vous dire, j'ai quasiment rien trouvé sur l'auteur sur internet. Donc il est égyptien, il me semble, c'est marqué à l'intérieur de la couverture, mais on m'a volé mon bouquin. Donc
Oui, mais il est trop beau.
Claire va nous dire,
aussi.
Allez, Claire, dis-nous, très égyptien.
La première page. Ouais.
Non, c'est on a changé.
Salah Jaïn.
Il est égyptien,
voilà.
Walid Taher, il est.
Je crois qu'il n'y a pas sa nationalité.
Pas.
Et alors lui, c'est pareil, j'ai
il
trouvé.
Habitant du monde.
Ouais. Mais les deux sont habitants du monde et les deux sont habitants des villes. Ça tombe très bien que tu dises ça parce que c'est un recueil sur la ville. Donc là, il nous parle de la ville et ils finissent toujours, chaque poème, il finit toujours par bizarre. C'est le parti pris de sa poésie à lui. Je crois que c'est tous ses recueils. Hein.
Tous ses recueils, puisque moi j'en ai un deuxième qui s'appelle Roubaïat de printemps. Et c'est tout à fait pareil. Ça finit tout le temps par bizarre.
Ouais.
Voilà. Et c'est quoi Roubaïat ?
Alors c'est la forme du poète, c'est le du poème, c'est le quatrain persan. Alors d'après ce que j'ai trouvé, autant vous dire que j'ai pas trouvé énormément d'informations sur le Rubaiyat, mais il semblerait que ce soit le quatrain persan.
Okay. Ça me plaît comme mot.
Oui, c'est très joli. Ouais. Mais j'ai eu du mal à savoir si c'était voilà une invention de l'auteur ou quelque chose de traditionnel, mais il semblerait que ce soit traditionnel.
Je pense que c'est traditionnel parce qu'arba en arabe ça veut dire 4. Ah. Rubaiyat c'est la même racine. Donc je pense que ça veut dire le 4.
Donc on peut supputer.
Oui, que... on peut supputer. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est des poèmes très simples, mais très jolis qu'on peut lire à en tant qu'adulte, à des enfants, à n'importe qui. Le quatrain, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rapide et c'est sonore.
À 4 heures, le quatrain à 4 heures.
Oui,
ouais, c'est meilleur. Le quatrain à 4 heures.
Avec un petit 4 quarts.
À toutes les heures.
Bien, bizarre, bizarre.
À toutes les heures, on peut le lire.
Je vous trouve tous bizarre, bizarre aujourd'hui.
Les illustrations, c'est.
Alors, les illustrations, c'est deux couleurs, bleu, blanc, bleu, jaune. C'est très grossier sans le côté péjoratif de grossier, hein, c'est-à-dire que
c'est de l'encre. C'est pas de l'encre.
Ah, j'aurais pas dit que c'était de l'encre. Moi, j'aurais dit de la peinture, mais mais peut-être que je me trompe.
Ouais, c'est un genre de gouache.
D'accord, merci.
Nico dit gouache.
Ouais, c'est
oui,
quoi.
Oui, bah peinture, gouache.
Ouais, ça fait un peu naïf, un peu enfantin.
Acrylique, je ne sais
pas. Gouache à l'encre.
On peut sortir tous les synonymes si tu veux de gouache, peinture.
Ouais, gouache liquide.
Et voilà, moi, j'ai été surtout touchée par par la maison d'édition, par la collection, par le format. On a l'impression de prendre en main un petit cahier. Et du coup, on se dit, c'est facile d'accès. On n'est pas face à un recueil de poésie très austère qui fait peur. Là, c'est coloré. Voilà, c'est pas, oui. Ça invite à la lecture. C'est un recueil très court, hein. Je crois qu'il y a une dizaine de quatrains dedans. Et du coup, ça rend le texte hyper accessible, je trouve, et c'est très positif.
Et je suis d'accord avec toi.
Mais toi, Marlène, tu n'as pas les mêmes couleurs.
Non. Et pourtant, c'est le même.
Non,
même
mais comme c'est le printemps. Oui, Walitaire.
Oui.
Mais comme c'est le printemps, je pense que du coup, les couleurs, c'est plus.
Ah oui, d'accord. On dirait
plus printanier.
Ouais, voilà, plus printanière. Ouais.
Mais c'est le ton de rose, jaune, ouais,
c'est
orange.
C'est ce qu'on donne presque, en fait.
Là, on est là, sur de l'aquarelle. On est plus sur de l'aquarelle.
C'est pas tout à fait la même
débat. Un peu aquarelle, tu vois, regarde. Ouais. Oui, je sais pas, c'est technique mix, on va appeler ça technique mix, alors.
On sait pas, on met ça.
Ben là, on sait pas, donc on met ça.
Ouais, c'est ça. Merci.
Et on retrouve quand même les
oui,
mêmes,
un personnage qui revient. Hein. C'est marrant, avec une écharpe en Orient, on l'imagine pas.
Voilà. Merci Popo, reste pas loin parce que tu as fait la relecture des livres qu'on va présenter maintenant.
Ah, oui,
que Nico va présenter d'un artiste que tu attendais de présenter dans cette émission depuis assez de temps. Et ça ça arrive.
Oui, ça arrive.
Il s'appelle Bernard, de son
Il
prénom.
Il s'appelle Bernard Friot, ce n'est pas le sociologue que l'on connaît, c'est le poète, l'auteur, l'enseignant, écrivain français. Qui est né en 51, voilà.
Oui.
Donc il y a maintenant un petit peu d'âge, mais en même temps, c'est un enseignant qui écrit énormément d'ouvrages, plutôt destinés aux enfants, aux adolescents. Et là, dans ce qu'on connaît beaucoup, dont je ne vais pas trop vous parler, ça s'appelle Les Histoires Pressées, mais bon...
il faut en parler pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même fabuleux.
Oui.
Alors, c'est fabuleux parce que ce sont des histoires assez courtes, pressées parce que... parce qu'elles sont pressées, voilà, on est pressé, faut aller vite. Alors, il a fait aussi une série, il s'appelle Poèmes pressés, hein. Mais je vais pas vous parler des histoires pressées parce que ça l'a fait beaucoup connaître. Et ce qui est beaucoup moins connu de chez lui, c'est vraiment sa poésie que j'ai trouvé moi remarquable. Je connaissais un petit peu Histoires pressées, mais en fait, je l'ai découvert par Magali qui est pas là, mais qui avait fait les mâles poésie là et qui m'en avait parlé. Et franchement, j'ai découvert à travers trois ouvrages donc que je vous recommande, qui sont peut-être Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis Pour vivre. Voilà, des poésies extraordinaires. Alors si on n'aime pas la poésie, lisez Bernard Friot, vous allez aimer de la poésie, parce que franchement, c'est limpide, profond, c'est sincère. Les mots sont pour Bernard Friot de la matière vivante. Voilà. Entre ses mains, une fois posés sur la feuille, ils s'assemblent, ils se touchent, ils se frôlent, se caressent et nous font vibrer pour mieux nous rattacher à la vie. Le mot oui pour dire l'amour, oui pour affirmer sa tristesse, oui pour dire son désespoir et oui pour dire sa colère. Mais oui aussi, Bernard Friot utilise oui aussi pour dire non.
Ah.
Et c'est ça ce que j'aime. Alors par exemple, il dit « Au moins, j'ai les mots. Je ne les aime pas vraiment. Ne joue pas avec eux. Ils ne sont pas à moi. Je les prends, les assemble et polis à ma voix. Et c'est suffisant. S'en méfier un peu, toujours entre eux, poser un souffle de silence pour troubler leur vérité. Et s'en servir, pas dupe, pour soulager des blessures qu'on ne guérit pas. Donc ça, c'est un extrait de Pourquoi oui. Alors, il n'y a pas vraiment de titre à chaque poésie. Hein. C'est
pas
des poésies, voilà. C'est des poésies qui s'assemblent, mais sans vraiment s'assembler, qui font appel à chaque fois à des thématiques. Solidarité, timidité, silence, témérité, amour. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Après, le thème des mots, il aborde aussi le thème de l'amour à travers le petit ouvrage qui s'appelle « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Qui est vraiment truculent parce que ça parle vraiment d'amour avec sincérité, profondeur, truculence, parfois un petit peu d'érotisme, mais très très peu, mais beaucoup d'humour. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc c'est un sujet délicat, il le traite sans a priori, sans faux semblant, avec des mots simples et directs. C'est très très abordable, je trouve, sa poésie, franchement. Voilà, et dans tous les registres, humour bien sûr, mais aussi nostalgie, enthousiasme, gourmandise, ironie, avec une constante, quoi qu'il arrive, le plaisir des mots, le plaisir de dire, parce qu'il n'y a pas que les mots en fait, il y a les sonorités qui vont avec, puis il y a les images qui viennent avec, donc c'est une poésie qui est très métaphorique, mais en même temps qui est très, très sensible, quoi.
Tu te retrouves, Popo, dans ce que dit Nico ?
Eh oui, et je retrouve aussi, enfin, ce qui est super important, je trouve, moi, dans les textes de Bernard Friot, c'est comme il ouvre toute forme d'écriture aux enfants et aux adolescents. Et c'est ça que je trouve qui est fantastique, c'est qu'il ne les prend jamais pour des idiots, il n'infantilise pas les enfants plus que... Il leur parle normalement avec des vrais mots, mais il arrive vraiment à, je pense, si on veut faire lire ou faire... dire de la poésie à un enfant ou un adolescent, mais Bernard Friot, ça lui parlera tout de suite parce qu'il pourra, chuchoter, il pourra crier, il pourra être honnête, il pourra, enfin, et c'est ça que j'aime moi chez Bernard Friot, c'est que
c'est très frais.
Oui, c'est ça. C'est toujours, alors on va dire des grands mots sincères, alors que c'est très simple en fait, c'est très très simple et c'est hyper accessible et c'est son talent, c'est de réussir à donner envie. Et de faire rêver avec des mots, de la poésie, des nouvelles, c'est très chouette pour ça.
Pour vous donner un exemple, par exemple, sur ce petit recueil qui s'appelle Je t'aime, je t'aime, je t'aime, il y en a une qui est très drôle, qui résume tout ce que tu viens de dire, en fait, qui s'appelle La vache et le TGV. Dans son pré de Franche-Comté, entre Motet et Champagnet, une vache émet un TGV. Elle était folle de son corps élancé, de ses yeux étonnés, de son nez allongé. Deux fois par jour, il passait comme un éclair, 10h15, 17h26, et il respectait l'horaire. Et la vache meuglait d'amour à chaque aller-retour. Un jour, le TGV l'aperçut, et son moteur en fut ému. En plein champ, il s'arrêta, vers lui, elle galopa, et sur le nez du TGV, la vache déposa un doux baiser. Il n'est jamais reparti. Le TGV Besançon Paris, à tout jamais, il est resté dans un pré de Franche-Comté entre Moutet et Champagnet. Et désormais, on peut l'affirmer, parfois l'amour fait dérailler.
C'est un poème sponsorisé par la SNCF pour justifier les retards, c'est ça ?
C'est un peu ça, mais on l'a trouvé très,
très drôle.
C'est à la
fois très drôle,
non, c'est
très drôle, et en même temps, c'est sensible, quoi. Voilà.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est accessible et touchant et joli. Et Alors, tout n'est pas aussi... Là c'est non, un particulièrement...
Il y en a d'autres qui sont...
Oui, voilà. Il y a vraiment de tout. Et
Alors, par exemple, un deuxième sur... qui est un peu plus sévère, un peu plus dur. Enfin, pas dur, mais un peu plus profond, on va dire. Voilà. Amour mystère, amour secret. Oui, il faut le taire. Bouche cousue, lèvres fermées. Ne rien révéler pour le garder. Amour mystère, amour secret, dur dur de le taire. Langue pendue, mots envolés. Je le sens, ça va m'échapper sur les toits, je vais le crier. Mais si tu mets tes lèvres sur les miennes, je le promets, je resterai muet. Voilà. On sent donc une...
Ça parle à tous les enfants, tous les ados, je pense.
Ça parle à tout le monde.
On voilà, sent dans si on veut, donc, je pense, les ouvrir à la poésie, ou enfin à l'écriture, c'est génial, je pense.
Ouais. On sent... dans son écriture, une grande compréhension entre ce que vivent les hommes à l'intérieur et l'agitation du monde de l'extérieur, avec une distance juste et fraîche. En tout cas, il nous enlace par ses poésies et nous rend un peu plus tendres et empathiques. si on n'aime pas lire donc de la poésie, alors faut vraiment lire du Bernard Friot.
Eh oui.
Je vous le recommande et vous comprendrez.
Super Nico, merci beaucoup et merci beaucoup Popo aussi pour cette relecture.
Ah oui.
Qui apparemment t'a plu et tu nous donnes envie d'en découvrir plus. Qui veut prendre la parole? Personne, d'accord,
si,
très bien.
Oui,
allez,
si, si.
Veux, on parle, on va raconter allez. Des choses. Enfin,
vas-y.
La
vas-y.
Poésie. Alors moi, je suis vachement moins fleur bleue que Nico. Et puis, il y avait un petit classique, en fait, que j'ai retrouvé dans... Ben oui, désolé, hein, chacun son... Moi, tu sais, je suis très infantilisée. Et en fait, vous avez parlé de voyages beaucoup, de trains, d'aventures. Et moi, il y a une ville qui m'est totalement inconnue, qui s'appelle Paris. Et Raymond Queneau, en fait, il a sorti un petit opus qui s'appelle Paris-ci, Paris-là et autres poèmes. En fait, c'est une édition qui est de chez Gallimard. Et si mes notes étaient à l'endroit, ce serait beaucoup plus facile, dans la collection Enfance en poésie. Et il a choisi... Alors, ils ont mis pas forcément les poèmes les plus connus de Raymond Queneau, qui, lui, est ultra connu. Pas forcément les plus faciles, mais... On va rentrer dans un monde tout farfelu. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était divertissant, c'était drôle, c'était du jeu avec les mots. On avait envie de jouer avec, de jongler avec, de se promener avec les mots. Et en fait, on part faire une petite visite de Paris, parfois animalière, parfois piétonnière. En fait, du grand, grand Queneau. On y joue sur les mots, un plaisir de poésie, tout en rythme, tout en furie. On se plaît à découvrir Paris sans sortir de son lit. Et c'est parti en taxi pour une découverte ludique de la poésie. Il y avait une fois un taxi, taxi, taximètre, qui circulait dans Paris, taxi, 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 cuit. Il aimait tant les voyages, taxi, taxi, taximètre, qu'il allait jusqu'en Hongrie, taxi, 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 cuit, et qu'il traversait la Manche, taxi, taxi, maître, en empruntant le ferry, taxi, 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 cuit. Un beau jour, il arriva, taxi, 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 maître, dans les déserts d'Arabie, taxi, 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 cuit. Il y faisait tellement chaud, taxi, 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 maître, que sa carrosserie fondit, taxi, 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 cuit. Et de même que le châssis, taxi, 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 maître, et tous les pneus y compris, taxi, taxi, taxi,
cuit.
Chauffeur, chauffeur de taxi, 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 maître, écoutez-moi cette morale, taxi, taxi,
cuit.
Lorsque vous quittez Paris, taxi, 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 maître, emportez un parapluie, taxi, taxi, taxi,
cuit.
Parapluie ou bien ombrelle, taxi, 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 maître, un mot est bien vite dit, taxi, taxi, taxi,
cuit.
Et j'adore Raymond Queneau.
Oui.
Alors moi, j'aime pas du tout parce que
je
vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai passé le concours de l'école normale, on m'a posé comme texte à étudier les fleurs bleues de Queneau. Et j'ai eu 3.
Ce livre va te réconcilier avec Queneau. Il est drôle. Il y a plein de petits poèmes comme ça qui sont presque sur la comptine. Et c'est divertissant à souhait.
Oui,
c'est
on a
jovial,
envie de jouer
ce
poème comme tu l'as fait d'ailleurs. Bon, après,
Et le titre du poème, en fait, c'est Il y avait un taxi, mais écrit à l'envers. Donc, Xatnu Siofnut I Havaï. Voilà.
Bravo. Nico veut prendre la parole, mais Marlène a un ouvrage à présenter juste avant.
Je laisse ma place à Marlène.
Voilà. Et ben, moi là, je vais vous faire pleurer là tout de suite après ça. C'est beaucoup moins drôle.
Allez, pleurons.
Non, ouais. C'est un texte en fait d'Elisabeth Brami.
Oui.
Qu'on présente plus quand même parce qu'au niveau de la littérature jeunesse, c'est quand même une référence. Hein.
Présente-la quand même.
Point sûr.
Tout le monde ne sait pas
qu'on
qui
a croisé l'année dernière.
Donc elle est psychologue clinicienne et elle a son actif plus de 100 livres de littérature jeunesse. Elle fait des conférences, elle fait voilà.
Grande
elle est très connue, elle vient dans de nombreux salons. D'ailleurs,
c'est drôle, elle mâche pas ses mots.
C'est ça, elle ne mâche pas ses mots, tout à fait. On l'a rencontrée en fait l'année dernière lors d'un salon spécialisé jeunesse à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans le cadre de nos formations et on a eu c'est pour ça que Claire dit qu'elle ne mâche pas ses mots. On a vu une conférence où voilà, c'était très tranché. Donc en fait, j'ai voulu revenir sur ce texte. Alors, il est pas récent il date de 2007. Mais en fait, dans la malpoésie de la médiathèque, là, on l'a revisité un petit peu avec Magali. Et du coup, on a retrouvé ce texte, et moi, et il m'a plu. Et Magali m'a dit, quand je l'ai lu, j'ai pleuré. Donc, c'est Prunelle de mes yeux.
Ah oui, il est
ça a été illustré par Karine Deiza. Et en fait, les illustrations, c'est fait à base de collages.
L'histoire est terrible,
mais de collages qui font très réalité, en fait, hein, très réel, c'est très, très, très joli. Et donc ce petit texte, ça parle de la relation entre une mère et un enfant. Et en fait, ce petit enfant, il est jaloux. Il est jaloux de partager sa maman. Alors il est jaloux de partager sa maman d'abord avec un monsieur. Ensuite, il est jaloux de partager sa maman avec un bébé qu'il y a dans son ventre. Et finalement, ce petit garçon, il veut que le bébé qu'il y a dans le ventre de maman, il meure. Et il le souhaite tellement fort que le bébé, il meurt. Et que donc ce petit garçon, il s'en veut. Et il voit sa maman qui périclite, et qui ne fait plus rien et qui ne s'occupe plus de lui. Et puis finalement, sa maman, elle va aussi prendre un train et ne plus jamais revenir.
Oh merde. Ah oui,
donc je suis désolée, c'est très très triste. Mais c'est très très beau. Et le texte est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression que c'est de la poésie, en fait. Ça se lit... très sincèrement, quand on le lit, même moi, j'en pleure parce que c'est très très dur.
C'est très touchant et c'est vrai que tu as raison. Les images rentrent vraiment en résonance avec le texte et on est embarqué. Moi, je l'ai lu une fois et c'est vrai que t'as envie d'aller au bout de l'histoire. Et quand t'arrives au bout, t'es scotché, quoi. Tu pleures.
Ouais. Et en fait, les images au tout début sont vraiment très jolies et on le voit. Voilà, il invente il se met avec sa maman dans l'herbe, il regarde les nuages, ils inventent des formes. Enfin, et puis les couleurs vont avec, quoi.
Mais tout le livre, c'est que ce texte.
Tout le livre, ce n'est que ce texte.
D'accord, parce qu'il est long.
Il est long. Il fait 40 pages. Il est long. Il fait 40 pages. C'est pas non plus.
Poétique,
voilà. Mais par contre, enfin, c'est pas pour la jeunesse, quoi. Hein.
Oui,
on est d'accord.
Tu l'as pas lu à tes enfants.
Non, je l'ai pas lu à mes enfants.
Soirs, elle le lit. Maman va vous lire un texte, les enfants.
Je vous lis juste le passage, d'ailleurs. L'illustration, c'est une coquille d'escargot, en fait, qui en forme de landau, qui se renverse avec, du coup, une espèce de rosier, enfin, de plante noire, voilà. Une petite voiture, un morceau de petite voiture de jouet d'enfant qui est à côté, on se demande. Et là, en fait, c'est la partie où le petit garçon, il dit... Meurs bébé, meurs, criait une voix au fond de moi. Et je faisais de la magie pour qu'il soit transformé en squelette sec et dur, comme le porte-clés que j'avais piqué à un copain. Ensuite, on jetterait le landau. Sa coquille vide rouillerait dans la remise à la campagne. Alors maman me regarderait et me parlerait de nouveau, et le bébé n'aurait jamais existé. Et malheureusement, quelques pages après, on apprend qu'effectivement, non, j'avais juste réussi la mort du bébé. Bon, voilà.
Il nous reste 3 auditeurs. merci Marlène.
J'ai plus dans leur canapé. L'ambiance.
Mais vous avez bien fait de rester parce qu'il y a un super poème qui arrive.
Non, par contre, c'est vrai,
les illustrations
très, très
sont
ouvrage,
très belles. Hein. Oui. Ça me plaît beaucoup.
Mais c'est voilà, il est très triste, mais c'est il faut aussi se pencher là-dessus. Et puis il y a certains sujets qui sont compliqués à aborder. Et là, je pense que voilà, sur c'est des thématiques dures, mais
à quel
Là, en fait, nous, quand on l'utilise plus pour les adultes.
À quel âge, c'est avant d'avoir des enfants.
Ouais.
C'est ça. À qui ça s'adresse que c'est cette collection. C'est ça qui me rend curieuse.
Après, c'est édition du Poisson Soluble. Ouais, il est pas tout récent, mais c'est. Toute cette collection n'est pas là-dedans, quoi. Enfin, n'est pas sur cette thématique-là, pardon. Mais et voilà.
Et c'est le but et la force de la poésie d'aborder des sujets autres que cuicui, les petits oiseaux et je t'aime, bien aimé. Oui.
Et ben c'est une bonne transition avec souffle.
Allez, c'est bien car c'est déjà quasiment l'heure de finir cette émission.
Voilà, Stéphane Ebner, qui est à la fois illustrateur, qui a fait une école en Belgique, donc c'est la maison d'édition, les Esperluette Édition, très belle maison d'édition, qui lie à la fois graphisme, calligraphie et puis poésie. Et donc Stéphane Ebner a écrit et mis en image aussi en illustration, très très belles illustrations, des aquarelles qui sont magnifiques. En fait, un texte qui s'appelle Souffle. Et les recherches de Stéphane Ebner en fait concernent beaucoup la narration et le rapport entre le texte et l'image. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en fait dans cet intervalle infime où le lecteur reprend son souffle et tourne la page pendant que l'auteur le perd et s'arrête? Voilà, patience. Il nous invite à prendre le temps à la fois avec les images et à la fois avec les mots. C'est un grand cahier qui est dessiné et qui permet d'entrer dans l'univers de ce fameux Stéphane Ebner. En fait, à travers Souffle, il parle aussi du bégaiement, mais pas seulement du bégaiement. Alors moi j'ai été bègue, donc quand j'ai lu ce livre, en fait, ça m'a replongé des années en arrière et je me suis beaucoup retrouvé dans les mots et dans la poésie qu'il utilise, quoi. Comment tu es en suspension, comment tu cherches tes mots, comment tu respires et comment tu ne peux pas respirer pour trouver le mot suivant. Et du coup, je trouve que c'est quand on lit cette poésie, qui est une prose, mais c'est pas vraiment de la, enfin, c'est pas vraiment un texte poétique.
C'est des actus et des haïkus aussi, hein, presque.
Oui,
hein.
On est plus autour de l'haïku. Et du coup, j'ai trouvé ça d'une extrêmement grande sensibilité, quoi. Mmh. Franchement, moi, je me suis plongé dans cet univers à la fois graphique et poétique, et j'ai trouvé ça.
Les dessins sont très beaux,
quoi,
aussi. Hein. C'est très minimaliste et c'est très beau.
Ouais, mmh. C'est une maison d'édition, en fait, qui est placée sous le signe de la typographie et de la rencontre. Et du coup, ils font beaucoup de choses comme ça. Mmh. Lui, il a écrit deux autres ouvrages. Un qui s'appelle Les Amants Monotypes, aussi, qui est un très très bel ouvrage. Et l'autre qui s'appelle Réserve. Et franchement, je vous conseille sans réserve de lire ces bouquins qui sont un petit peu chers, hein, mais en même temps qui sont plutôt des livres d'art que des simples. Oui. Voilà.
Donner de l'argent pour la poésie, c'est important.
Mais des livres singuliers.
Franchement, magnifiques. Mmh.
Voilà. Quelqu'un a-t-il vraiment un livre à présenter parce que c'est vraiment l'heure?
Non, moi je veux juste dire.
Non, mais oui.
Non. Je vais pas parler du livre, je vais juste tirer un petit poème d'un livre et je trouve que ça résume bien. C'est Sous ma couverture, je me raconte des histoires, je suis un livre.
Merci Marlène. Popo, c'est bon pour toi?
Oui, c'est bon.
C'est bon pour toi, Val?
Oui, je continuerai à lire de la poésie matin, midi et soir.
Claire, c'est bon pour toi?
Avec un quatrain de François Cheng?
Mais bien évidemment, Claire.
Lorsque nous nous parlons, le rêve est à venir. Lorsque nous nous taisons, il est là, à cueillir. C'est dans Enfin le royaume de François Cheng. C'est son 41e livre.
Attends, on m'a dit ça la dernière fois. Merci. Alors, Claire, la prochaine émission sera sur le thème de la bande dessinée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Angoulême dernièrement et vous êtes allé à Angoulême et donc
on a
ça
ramené
sera
des trésors.
Ça sera une émission un peu surprise. Super. Parce qu'il y a des interviews, il y a de tout.
Attends, avance. Alors, pas trop sur les interviews parce que je sais pas si j'ai bien fait marcher l'enregistreur.
Si j'en ai écouté quelques-unes, ça a marché. C'est bon. Ouais, et on racontera aussi toute la votre aventure. Ah, comme ouais. Chaque année, tu as été le chat noir. À cause de toi, il y a eu des problèmes.
La loose.
Comme dégâts des
toujours dégâts des eaux. Moi, ça m'était déjà arrivé.
Donc, nous, on a des photos en plus. Hein.
Ouais, on a des photos à mettre. Donc, on ne sait pas encore quand cette émission aura lieu. On est en pourparlers, hein, comme les pirates. Et on vous dira ça bientôt.
Émission surprise.
Allez, merci à tous. À bientôt.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Il y a plein les commissariats, plein les directionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.